La première. 18h15, 19h, le samedi. Le fantôme de la radio. Eric Lauze.
Bonsoir. C'est bien le fantôme de la radio qui vous parle. Cela fait tellement longtemps que je fréquente ces lieux chargés de son et de lumière. Cette grande maison, comme on l'appelle encore quelquefois, je la connais comme ma poche. Invisible de jour comme de nuit, j'ai baladé ma silhouette un peu partout entre ces murs. Bien caché dans l'ombre des studios, j'ai assisté incognito à des milliers d'émissions, tant en radio qu'en télévision. Vous ne me croirez peut-être pas, mais personne ne sait qu'un fantôme hante ces lieux et observe tout ce qui s'y passe. Personne, sauf vous, chers auditeurs, à qui je confie chaque semaine un récit inspiré de mes lointains souvenirs. Si toutefois vous avez un doute quant à mon existence, je vous conseille de rester bien à l'écoute. Seule une ombre qui a traversé les âges peut vous raconter l'histoire que vous allez entendre ce soir.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est terminé pour moi. À partir de lundi, c'est Philippe de Rémacker qui vous réveillera très bien, j'imagine, le matin sur Bruxelles Capitale. Je voudrais vous remercier pour votre fidélité depuis si longtemps. Remercier aussi ceux qui m'ont aidé à vous réveiller tous les matins. Je ne vais pas citer tout le monde depuis 15 ans, mais je voudrais citer ceux de maintenant. Merci à Christophe Goffeau, à Paul Michel, à Valérie Leput et bien sûr à Christophe Schoenbrod, sans oublier mes formidables camarades et collègues de Bruxelles Capitale. N'applaudissez pas encore, je n'ai pas fini. Je voudrais vous dédier la chanson qui va suivre, car je pense qu'une bonne chanson vaut mieux qu'un long discours. Et puis, allez, je vous la fais pour la dernière fois. Mesdames et messieurs, à demain.
Le vendredi 15 décembre 2000, Jean-Pierre Autier présente sa dernière matinale. Il est ce jour-là officiellement nommé directeur de la première. Fini donc les petits matins pour celui qui a réveillé les auditeurs bruxellois pendant 15 ans, sur Bruxelles 21 d'abord, puis sur Bruxelles Capitale. Pour autant, l'animateur qu'il est ne peut se résigner à quitter l'antenne. Il garde sa place derrière le micro et présente sur sa chaîne une émission quotidienne, Bonjour quand même, de 9 à 10 heures, avec les ingrédients qui ont fait son succès sur Bruxelles Capitale, de la musique, des chroniqueurs et des interviews de personnalités. Dans cette deuxième émission dédiée à Jean-Pierre Autier, il sera question de ce changement de cap important dans sa carrière. Il devient chef d'équipe pour la première fois à la tête d'une radio phare de la RTBF. Il a alors 45 ans et presque 25 ans de métier derrière lui. Lorsqu'il prend les commandes de la première à la fin de l'année 2000, Jean-Pierre Autier s'entoure de personnes proches qu'il connaît de longue date et avec qui il a déjà travaillé. René Michiels, animateur, Alain Neves, technicien radio, et Christophe Schoenbrod, producteur et collaborateur.
Jean-Pierre m'a appelé, je me rappelle, j'étais en émission, c'était un jour de Toussaint, donc il m'appelle, il me dit, écoute, Claude Delacroix m'a proposé de reprendre la première.
René Michiels, ancien chef d'antenne sur la première.
J'ai envie de structurer cette chaîne, je veux un responsable des émissions du matin, je veux un responsable des émissions de l'après-midi, pas pour diriger, c'était vraiment déjà pour être à l'écoute des animateurs qui faisaient des émissions ou le matin ou l'après-midi. Et j'ai pensé à toi pour l'après-midi. Bon, moi, j'étais animateur, j'avais une émission qui marchait pas trop mal. J'ai un peu hésité, mais je dois vous dire que J'ai pas hésité très longtemps et à un moment donné, quelques jours après, j'ai dit ok, top là.
Mais c'était un défi pour lui parce qu'il débarquait sur une autre chaîne.
Christophe Schoenbroth, proche collaborateur de Jean-Pierre Routier.
Il en devenait le directeur, une chaîne où il y avait beaucoup de tranches d'infos. Donc il fallait aussi faire sa place par rapport à ça. Lui n'avait pas le diplôme de journaliste. Donc il sentait encore un peu cette rivalité entre les journalistes et les animateurs. Et donc il essayait de faire en sorte que son projet aboutisse, que la grille évolue et dans le bon sens.
Son idée, c'était de faire ce qu'on appelait à l'époque une radio info et talk, mais où l'info avait autant d'importance que le talk, où le talk avait aussi autant d'importance que l'info. Parce que ce qu'il regrettait à l'époque sur la première, c'est qu'on avait l'impression qu'il y en avait que pour l'info et que les programmes entre les tranches d'info, comme il le dit dans son programme, dans son projet, c'était un peu des interludes, quoi. Et donc, lui, ce qu'il a voulu amener sur la première, c'était du contenu. Et il avait une belle formule. Il disait que le privé avait le droit de faire des émissions intelligentes, mais le public, lui, n'avait pas le droit de faire des émissions idiotes. Donc, ce qu'il voulait amener, c'était du contenu sans barber. Il n'était pas très d'accord, vous savez, à l'époque, toujours maintenant, quoi. On dit, ah oui, le cœur de cible, c'est 35-55. Lui, il voyait pas pourquoi on disait ça. Il voulait une radio qui s'adresse à tout le monde. Il disait, je suis sûr qu'il y a des jeunes qui s'intéressent à autre chose que la PlayStation à l'époque, qui viennent chercher du contenu chez nous. Il faut qu'on les intéresse parce que ces gens-là, plus tard, ce seront des consommateurs du média RTBF.
C'est un des premiers à avoir eu une vision de la radio pour la première.
Véronique Thiberguien. Animatrice sur la première.
La première était une chaîne pure info et tout ce qu'il y avait entre l'info, en fait, c'était souvent considéré comme du comblage. À cette époque-là, pas avant, mais il y a eu une espèce de déliquescence comme ça dans les entre-journaux, on va dire, où on s'intéressait pas beaucoup à ce qu'il y avait à l'intérieur. C'était des émissions musicales, il y avait des jeux, on a testé beaucoup de choses, mais il y avait pas un réel projet cohérent. Et Jean-Pierre, quand il est arrivé sur la première, il est venu avec un projet cohérent. Et dans la journée, il y avait quelque chose, il y avait un fil, il y avait une continuité, et surtout, il a eu l'intelligence de mettre les émissions d'animation au même niveau que les émissions d'information. Ce qui a donné cette cohérence à la première, à cette époque-là. Parce que du coup, on devenait une chaîne de journée à écouter toute la journée et pas uniquement à certains rendez-vous. Et ça, c'était son défi, justement. C'était de pouvoir garder les auditeurs tout au long d'une journée.
Puis il y avait des personnalités sur cette chaîne. Il y avait Georges Pradès, il y avait Gérard Vallée, il y avait plein de gens comme ça. Il a remis à l'antenne Claude Delacroix, il a refait faire des chroniques aussi à Marc Moulin pendant l'été, une goutte de jazz, ça s'appelait. Enfin, il avait plein d'idées comme ça, il comprenait la radio, il la sentait et il emmenait les gens avec lui.
Et vous avez adoré cette période-là quand vous avez embrayé sur la première avec lui, avec toutes les personnalités dont vous parlez. C'était un projet emballant.
C'était motivant. Ça faisait un peu peur aussi parce qu'on débarquait en pays qui n'était pas conquis. Et donc il y avait des embûches. On n'était pas nécessairement attendu à bras ouverts par tout le monde. Mais il y avait une chouette équipe autour de Jean-Pierre. C'est ce qu'il disait toujours. L'essentiel dans un boulot, c'est avec qui on bosse. C'est l'équipe de tous les jours, c'est le staff. Et donc, il y avait René Mikils qui l'a fait venir de Mons, il y avait Alain Neves. Et voilà, on était plusieurs comme ça autour de lui. Et il veillait à la cohérence et à la cohésion de ce groupe. Et il y croyait fort et il nous emmenait avec lui.
Parce qu'il y avait quelque chose d'important chez Jean-Pierre. C'est un fou de Napoléon, hein. Ça on le sait. Et Napoléon, il avait ses généraux. Et donc, Jean-Pierre, il m'a toujours dit, moi, je vais être bien entouré. Et c'est un peu pour ça qu'il a choisi des amis. Mais je crois qu'on était aussi compétents, hein. Je veux dire, c'était pas du népotisme, quoi. Mais il voulait être bien entouré pour accomplir sa mission, quoi.
Il vous appelait sa garde rapprochée.
Sa garde rapprochée, ouais, tout à fait. Et tous les lundis midi, on avait une tradition, il y a un restaurant italien palois de Reyers, on allait manger ensemble, vraiment la garde rapprochée, et on faisait le point.
En fait, il avait une vision, il avait un projet. Et voilà, il voulait le défendre jusqu'au bout, ce projet.
Oui,
et si on l'en écartait, eh bien, merci.
Il a remis quelquefois sa démission, hein, qui a été refusée, évidemment, par Francis Goffin.
Alain Neves, ancien technicien radio.
Mais il y a quelquefois où ils se sont pris la tête. Et Jean-Pierre, il m'en avait toujours un jour, on le voit sortir comme une furie du bureau, venant vers René et moi, avec une enveloppe, il dit. Je vais la déposer à ma démission. Jean-Pierre, calme-toi. Souvent, on devait, René comme moi, et Christophe aussi, on devait un peu le tempérer, quoi. Parce qu'il était un peu sanguin par moment. Hein.
Bonjour quand même.
Bonjour quand même, l'émission présentée par Jean-Pierre Autier du lundi au vendredi entre 9h et 10h sur la première. Un exercice qui reste indispensable pour celui qui veut à tout prix garder le contact avec les auditeurs. Diriger la première ne l'éloignera jamais de l'antenne.
Le fait d'être directeur ne pouvait pas l'empêcher de faire de l'antenne.
Surtout pas. Je crois qu'il aurait... Si on lui avait dit « tu diriges la première, mais tu ne fais plus d'antenne », je crois qu'il n'aurait pas accepté le challenge.
René Michiels, ancien chef d'antenne sur la première.
Comme Marc Isaïe à l'époque, qui était directeur de Classique 21, qui avait son émission, comme Rudy Léonet, qui était patron de Pure FM, qui avait son émission, pour lui, c'était aussi une façon de... montrer aux troupes, entre guillemets, que lui aussi mettait les mains dans le cambouis et qu'il était toujours... c'était pas un directeur distant dans son bureau, quoi. Et il était à l'antenne, il côtoyait les gens dans les couloirs. Et non, la radio, l'animation radio, il aurait arrêté à aucun prix.
Dans son émission quotidienne, Jean-Pierre Autier reçoit des invités par centaines. Des grands noms de la littérature, du cinéma, du théâtre, de la musique, entre autres... Voici quelques extraits choisis.
Bonjour Jean-Pierre Marielle.
Bonjour.
Vous êtes de passage à Bruxelles pour un livre de souvenirs qui va un peu dans tous les sens. Ça s'appelle Le Grand N'importe Quoi. Vous savez, en belge, on appellerait ça un peu de tout. On a une phrase belge qui est... C'est pas vraiment une autobiographie. Dès le début, vous dites, vous avez 78 ans, vous vous sentez pas trop vieux. Vous dites, selon les jours...
Quel âge vous dites ?
78.
Ah oui, là, parce que j'ai
78.
Pas compris. Ben oui, ben j'ai cru que c'est... Vous vous trompiez.
Non.
J'ai cru que j'avais 8 ans tout d'un coup.
Non.
J'avais pas entendu 70.
Vous écrivez « Selon les jours, je rajeunis ou vieillis à loisir ».
C'est comme ça, oui. Parce que des fois, quand on arrive à mon âge, on est des fois ailleurs, comme ça. On remonte le cours du temps. Alors là, tout à coup, des fois, on peut se balader dans les années passées. Comme ça, on se sent avant, à jeune, comme ça. Puis d'un coup, on se réveille et puis on se dit, 78 dans 2 ans, 80 ans, ça commence à faire du bruit. Et tous mes copains et tous les gens, mes amis de jeunesse, tout ça, on est tous un peu dans le même cas. Mais on n'en parle jamais. On se rencontre, on a l'impression... Je vous dis, moi, je déjeune avec Belmondo, il me dirait, on a demain classe au conservatoire, je lui dirais avec qui. Ça pourrait arriver, une chose comme ça. Non, c'est pas des blagues, hein. Ouais. Je vais avec Rochefort, je lui dis, donc, il y a le roi demain. Où ? On a classe. Ah, merde ! C'est très bizarre, ça. Quand on a les mêmes amis depuis toujours... On a été au conservatoire ensemble, on s'est connus, on avait 20 ans, 25 ans, 22 ans, et on ne s'est jamais quittés. Alors, c'est quand même pas mal, ça.
Invité ce matin, Mazarine Pinjot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes là pour nous parler de votre nouveau roman, Mara, paru chez Julliard. Mazarine, je rappelle, vous êtes agrégée de philosophie, vous êtes toujours prof, hein ?
Oui.
Où ça exactement ?
Alors, je suis ce qu'on appelle... titulaire en zone de remplacement, c'est-à-dire que je suis titulaire, mais je n'ai pas de poste fixe.
Ah oui.
Ouais, donc je fais plusieurs lycées.
Prof volante, si on peut
exactement.
Dire.
Exactement.
Ouais, je rappelle, Mazarine Pinjot, vous êtes la fille de François Mitterrand. Et j'ai remarqué en visionnant ou en écoutant les interviews sur votre dernier livre en France, les intervieweurs, même les plus vaches, vous traitez avec une sorte de respect. On n'est pas vraiment méchant avec
ah
vous.
Bon, vous croyez ?
Non, j'ai remarqué ça.
Est-ce que
c'est l'ombre de votre papa qui est toujours derrière pour les Français ?
Pourtant, cette ombre-là, justement, m'attire pas mal de vacheries.
Ouais.
Donc, en fait, je pense que c'est en train de changer un peu. Mais il y a une époque où j'étais un peu quand même en but à des... Ah, de sacrée vacherie pour reprendre votre
oui,
propre
avec
mot.
Le, pour les premiers romans, évidemment, on vous attendait au tournant, mais maintenant, on vous
êtes
lancé.
Même un peu après. Et maintenant, effectivement, c'est en train de se normaliser. C'est le 6e livre. Je pense que, au bout d'un moment, on se lasse un petit peu aussi de revenir toujours sur les mêmes choses. Mais bon, c'est, il y a forcément toujours un mélange des genres, ce qui est normal. Je viens là en tant qu'écrivain. Mais en France, on me rappelle à peu près à chaque fois qui je suis, en dehors d'être un écrivain. Mais en même temps, pourquoi pas, c'est comme ça.
Bonjour Jean d'Ormesson.
Bonjour.
Vous êtes l'agent d'Ormesson pour nous parler de ce nouveau livre paru aux éditions Héloïse d'Ormesson, La Conversation, une conversation cruciale qui se déroule fin 1803. On va en parler dans un instant. C'était une époque, Jean d'Ormesson, où la télé, Facebook, le GSM n'existaient pas et où les conversations étaient un moyen de divertissement.
Un moyen de divertissement et plus que ça, comme vous le dites très bien, ça devait remplacer un peu les médias.
Ouais.
Il n'y avait pas...
Le soir, on mangeait et on parlait.
On parlait, c'est absolument.
Ouais.
La nourriture avait une grande importance. Il y avait deux tables qui étaient célèbres, celle de Talleyrand et celle du deuxième consul, Cambacérès. Ouais. Que je mets en face de Bonaparte. J'avais pensé d'abord à faire une conversation entre Bonaparte et Talleyrand.
Ouais.
Mais Talleyrand était trop personnel. Talleyrand aurait trop tiré la couverture à lui. Tandis que Cambacérès, il est tout à fait naturel que Bonaparte s'adresse à lui, puisque c'est le deuxième personnage de l'État.
Alors, Jean d'Ormesson, j'ai remarqué que la France a toujours un problème, peut-être plus avec Napoléon qu'avec Bonaparte. Hein.
C'est vrai. Avec Napoléon, c'est évidemment que la liberté est totalement abandonnée et que l'affaire finira mal. Je suis particulièrement heureux d'être à Bruxelles. Elle finit, puisque l'affaire finit ici. Ouais. Là,
c'est parce qu'il y a eu Waterloo que Waterloo. Napoléon, ça... C'est... Enfin, il y a eu Austerlitz, il y a eu Eylau...
Il y a eu beaucoup de gloire,
voilà.
Et une espèce de folie. Une fois que Bonaparte devient Napoléon, c'est-à-dire quelques mois après la conversation que je raconte, la folie s'empare de Napoléon et le chemin qu'il va prendre va le mener vers la catastrophe. Mais à l'époque, il est quand même... prodigieux. Le jeune Bonaparte est quelqu'un d'extraordinaire.
Et c'est dans Bonjour quand même que Carla Bruni présente ses chansons au public pour la première fois.
Aujourd'hui, c'est vraiment une des premières fois où je chante, donc...
Carla Bruni.
Il paraît qu'ensuite, on ne peut absolument plus s'en passer. C'est vrai que si le public était toujours comme vous, par exemple, c'est vrai qu'on s'y attache, mais...
Oui, il y a quand même le stress avant. Hein. Vous aviez un poil de stress. Je vous ai vu quand même, quand vous êtes arrivé, c'était un peu... Le stress partait là. Hein.
Je pense oui. Pense qu'éventuellement, je pourrais même, par exemple, mourir, mais le... ça, ne...
Par exemple.
Ça ne se fait pas.
Heureusement.
Mais ça ne me dérangerait pas. Si je pouvais mourir juste avant, ça distrairait, au fond, les gens.
Oui.
Les gens, dirais-je pas, elle chante mal, ils diraient, elle est morte. Ça serait mieux.
J'ai lu que vous avez déclaré « Je suis de nature pessimiste et négative, inquiète, peureuse et névrosée ».
Ça fait envie.
Waouh. Hein. C'est pas du tout l'image que vous donnez.
C'est aujourd'hui que je trouverai un fiancé. Hein.
Le pauvre Raphaël.
Non, Raphaël me supporte.
C'est pas du tout l'image que vous donnez.
Je pense que les personnes pessimistes et réalistes sont très gaies car elles n'ont rien à perdre.
Excellente réponse.
Merci.
Est-ce que vous êtes à l'aise maintenant dans ce métier de chanteuse, Carla Bruni ou...
Non, je ne suis pas tellement à l'aise, ni dans la vie en général. Et puis, je n'ai pas tellement envie d'être à l'aise, parce qu'au fond, je trouve qu'être à l'aise, c'est être habitué à tout. Et finalement, être à l'aise, je ne voudrais pas l'être. Il faudrait être fou pour être à l'aise quand on arrive devant des gens. Tellement tout peut arriver. Et donc,
enfin, quand on a le succès, qu'on a vendu des disques...
Je suis heureuse de ça, mais je ne suis pas à l'aise.
Mmh.
À l'aise, ça angoissée veut dire être
toujours.
Confortable dans toutes les situations.
Et de toujours angoissée, quand même.
Pas angoissée, je suis vivante, quoi. Mais comment faire pour être à l'aise? Il y a des gens très équilibrés qui sont très à l'aise. Je les envie beaucoup. Mais je ne suis pas faite comme ça. Est-ce que vous êtes à l'aise, par exemple? Pas particulièrement, vous avez l'air à l'aise, mais est-ce que vous êtes à l'aise?
C'est un peu mon métier d'être à l'aise.
Jean-Pierre Autier a le flair, si vous me passez l'expression, pour dénicher les chroniqueurs qui nourrissent son émission de séquences dans lesquelles il parle de tendances, de l'air du temps et de ce qui fait l'actualité.
La plupart des chroniqueurs, il nous a déniché alors qu'on n'avait jamais fait de radio.
Jamais.
Ça, c'est Jean-Pierre Autier, c'est son flair.
Frédéric Bréban.
Encore avec Thomas Gunzik, maintenant, qui est dans les cafés serrés. J'avais jamais fait de radio de ma vie.
Manon
je l'avais interviewé, je le vouvoyais. Et il m'a dit, tiens, vous ne feriez pas de la radio. Puis on s'est très vite tutoyé. Et il m'a jeté au micro sans le moindre essai, sans lire mon billet, comme ça, en direct live. Donc, il fallait quand même avoir les coucougnettes, si j'ose dire. Et ça, c'était aussi Jean-Pierre. Le flair, les coucougnettes, sentir le talent, extrêmement drôle. On a eu des fous rires magnifiques.
Lundi matin, c'est le moment de retrouver Frédéric Brébant. Bonjour.
Bonjour, Jean-Pierre.
Du week-end.be, la séquence tendance.
Alors, Jean-Pierre, savez-vous quel est l'animal domestique le plus tendance aujourd'hui ?
Non.
Non, ce n'est ni le chihuahua, ni le lézard, ni même la belette ou le piranha. Non, l'animal domestique le plus tendance aujourd'hui, c'est la crevette microscopique enfermée dans un écosystème complètement autonome et le tout s'appelle écosphère. Tout cela parce qu'on est en plein trip développement durable et protection de l'environnement, bien évidemment. Alors je vous explique tout de suite ce dont il s'agit. L'écosphère est une espèce de boule transparente, complètement fermée, avec à l'intérieur de l'eau de mer, des petites algues, quelques cailloux et surtout une variété de crevettes complètement inoffensives. Donc vous l'aurez compris, l'écosphère est un système qui se développe tout seul. Pas besoin de nourrir les bébêtes comme on le fait avec un vulgaire aquarium.
Parmi les chroniqueurs de Bonjour quand même, Yann de Troyer, premier journaliste flamand à prendre le micro régulièrement sur la première.
C'était en 2001 et je dois dire que Jean-Pierre était un pionnier parce qu'il était le premier à inviter un journaliste flamand,
Yann de Troyer,
à venir sur base régulière raconter des choses sur le Nord. Maintenant, tout le monde le fait. Il y a eu des coopérations entre différents médias Nord-Sud, mais à ce moment-là, il était le premier, c'était son idée. Et il m'a dit, je cherche un flamand à l'accent flamand, pas quelqu'un qui parle parfaitement le français. L'auditeur doit tout de suite reconnaître que c'est un vrai flamand. Hein. Et donc là, j'étais vraiment l'idéal. Hein, et...